Alors, comment lutter contre l'obsolescence qu'on pense qu'elle est assez bien programmée par certains fabricants?
Ouais, puis l'Observatoire de la consommation responsable du CAM nous dit le il nie pas qu'il existe une stratégie des producteurs de toutes sortes de biens, d'électronique, d'électroménager, de petits électroménagers, mais ils disent oups, le consommateur s'est délesté trop vite de sa responsabilité.
Ça, c'est vrai.
Le consommateur met tout sur la faute des fabricants. Ils disent, c'est peut-être une responsabilité partagée. Comme consommateur, on aime le...
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire on aime le neuf, on aime le dernier gadget.
Ah, oui.
On n'est pas patient,
oui.
On n'est pas patient à trouver un réparateur. En résumé, on est vite sur le gun à dire, moi, acheter un neuf.
C'est vrai.
Je ne commencerai pas à amener ça chez le réparateur, puis ça va me coûter... Puis on est vite à penser, la réparation va me coûter 100, un petit électroménager, la réparation va me coûter 80$, puis un neuf va me coûter 100$, ça vaut pas la peine. Puis...
Moi, je fais réparer assez régulièrement, par exemple, lave-vaisselle et ces choses-là, ça fait 2-3 fois, le poêle. Puis on trouve des réparateurs, c'est vrai que ça coûte un peu cher, mais la durée de vie des objets mérite qu'on fasse cet effort-là. Mais on parlait hors d'onde de la garantie légale, j'avoue... que j'étais pas très bien informé là-dessus.
Moi, je connaissais pas ça, puis j'ai fait une émission parce que des auditeurs me soulevaient des cas. T'as une garantie qui est donnée par le fabricant.
Oui, qui est assez courte généralement, 2-3 ans, des choses comme ça.
Oui, puis moins des fois. Et la garantie légale, qui est la garantie reconnue par la loi, c'est-à-dire que si tu fais usage d'un bien de façon normale, là, pas industrielle, pas commerciale, comme disait Mario pendant la pause, tu l'as pas échappé à terre.
T'as pas eu d'accident ou échappé de l'eau dessus.
Ben, normalement, ce bien-là devrait pas te poser des problèmes avant 8 ans, avant 9 ans, 10 ans. Et là, t'as une bataille à faire avec un commerçant.
Donc, t'es en mesure d'argumenter
avec
un commerçant.
Regardez, moi, j'ai le choix, là. Ou vous me le réparez, sans frais, ou je m'en vais à court des petites créances. Parce que c'est pas normalement des montants toujours très élevés. Puis, je te dirais par expérience qu'ils finissent dans bien des cas par dire OK.
La petite créance, la double preuve que tu as à faire la preuve, mettons, je sais pas, de ton toaster qui briserait au bout de 2 ans, là. Mais t'as à faire la preuve que t'en as fait un usage normal.
Ouais, ouais.
C'était pas un restaurant.
C'était pas un restaurant. Tu l'utilises normalement dans ta maison.
Il
n'y a pas eu d'accident. Il n'est pas poqué. Il n'y a pas un truc qui est passé dessus. Et faut que tu fasses la démonstration au juge que normalement, là, un grille-pain que t'achètes, ben, ça devrait durer quelques années, plus que 2 ans, ou plus que la durée où il est brisé.
Ouais.
Mais bon.
Mais je trouve que c'est un outil parce qu'il y en a peu d'outils comme ça. En fait, je lisais là-dessus, puis il y a peu d'outils pour nous prémunir contre l'obsolescence programmée. Ceci dit, j'ai pas vu dans ce que j'ai lu que l'obsolescence était un phénomène extraordinairement répandu chez tous les fabricants. Puis je suis pas
en
sûr.
En fait, est-ce que les électroménagers sont moins résistants aujourd'hui qu'à 25 ans?
Il semble, mais pour des raisons qui sont pas nécessairement,
coûte
moins cher de faire ça coûte moins cher de faire une cuve en plastique pour une laveuse. Ah
oui. Puis c'est plus léger,
mais ça s'use plus vite. Donc, effectivement,
comme ta laveuse est électronique, puis elle a un système de programmation, puis tout ça, de la minute que quelque chose brise, donc, c'est moins résistant, puis les coûts de réparation explosent.
Exact.
Donc, la combinaison de ça, c'est que tu arrives plus vite dans le temps à la conclusion que, tu sais, autrefois, là, tu changeais une strap, tu changeais un bearing, tu changeais...
Ça pouvait te faire encore.
C'était correct pour un autre quelques années.
Même les voitures, maintenant, avec l'électronique, tout ça, je sais pas, moi, je connais pas rien là-dedans, mais je sais que ça doit être beaucoup plus compliqué de changer certaines pièces qui sont électroniques.
Ouais. Mais... Donc, tu arrives plus vite à l'idée... Tu sais, le point de rupture où ça vaut pas la peine de faire réparer, ça vaut mieux... Il arrive plus vite, là. Puis, t'as certains appareils. Dans le cas des téléphones cellulaires, je sais qu'on peut changer la vite, mais tu sais, les cellulaires, maintenant, t'as même plus de batterie. Fait quand ta batterie est rendue faible, ils vont te dire, la batterie, là, est intégrée.
Souviens-toi, Apple, là, quand ils ont fait une mise à jour de leur système d'exploitation, là, puis soudainement.
Ils ralentissaient la vieille version.
Oui. Ça ralentissait ton téléphone, la batterie se vidait.
Mais ça, c'est un fait reconnu. Semble-t-il que toutes les mises à jour ont pour effet de rendre désuet l'appareil que tu as. Puis surtout, je l'ai vécu une couple de fois.
Ça te pousse à aller vers un autre appareil. Là,
exact.
Parce que c'est pas une génère.
C'est trop lent.
Mais donc... Mario avait un bon exemple pendant la pause sur les cartouches d'encre.
Ça, on a tous connu ça.
Mais c'est parce que cet exemple-là, je le donnais, Paul, parce qu'en France, ils ont voté une loi il y a 3 ans sur l'obsolescence programmée rendant ça illégal. Puis malgré tout ce qu'on dit là, sur les laveuses, les sécheuses et toute autre espèce d'appareil, il n'y a pas eu de cause. Sauf sur les cartouches d'encre, parce que... Puis moi, c'est drôle parce que ça m'a frappé. Je l'ai vécu cet hiver. M'a donné sur mon écran d'ordinateur votre cartouche d'encre, la cartouche noire, l'encre noire, ce qu'on utilise le plus, votre cartouche noire qui est vide. Vous devriez la changer. Pensez à la changer. Fait que je suis allé acheter, je me suis assuré d'en avoir une à la maison, je suis allé l'acheter, mais je l'ai pas, j'ai laissé sur le bord, là, à côté de l'imprimeur, en me disant, ben là, d'une journée à l'autre. Mais là, là, j'ai imprimé pendant facilement un mois. Mon gars avait des gros travaux de cégep, qui a imprimé des dizaines et des dizaines de pages. J'évalue le chiffron que j'ai dû imprimer entre 500 et 1000 pages.
Imagine.
Avant que...
c'est vrai.
Non, mais c'est peut-être 15% de l'encre, tu sais, dans le fond, qui restait, dans le fond. Là, 15, j'ai la misère à dire, moi, peut-être un 15% de l'encre qui restait. Donc, si j'avais réagi, et c'est là-dessus, en France, qui considère que ça... c'est une tricherie des compagnies en se disant qu'une bonne partie des consommateurs vont se dire « Ah, tabarouette, je prendrai pas de risque. »
Sur mon ordinateur, là, il y a l'espèce de triangle jaune qui s'affiche en disant que le toner là, est très bas, puis c'est le temps de changer.
Oui, oui, absolument.
Ça, c'est pas vrai. Donc ça, on te le dit pour te faire changer tout de suite.
Là, si t'as un réflexe, si tu vérifies pas...
Si tu regardes...
Ben là, tu prends ta cartouche, puis tu l'enlèves, puis t'en mets une autre.
Celle que tu vas jeter, il restait 15% de l'encre dedans.
Facilement.
Oui, puis généralement, tu changes tout. Hein, tu sais, je dis, ah bon, là, c'est épuisé. Moi, je m'en vais chercher un nouveau kit. Là,
t'as les changé toutes les couleurs?
Ben oui, souvent. Ben là, je fais attention parce que maintenant, je change.
Mais Mario a parfaitement raison. Tu peux imprimer sur une base quotidienne pendant facilement un mois, puis imprimer, disons, normalement, là.
Ça, ça a l'air niaiseux, mais pour la compagnie, là, si tu fais gaspiller 15% de l'encre à tout le monde, qui en rachète, puis
ben,
tu
vas être
à la fin de l'année.
Moi, j'attends que ça pâlisse.
C'est ça qu'il faut faire.
Moi, je ne me fie pas à leur signal. J'attends que la feuille dise OK, là, on veut
plus
rien. Il
y a plus de mine dans le crayon, c'est ça. Mais c'est bien intéressant, ce sujet-là, à lire là-dessus, parce qu'il y a deux aspects. Là. On voit les conséquences qui sont assez incroyables du fait que de la surconsommation, par exemple, en Afrique, tous les produits électroniques qui sont déversés là. L'autre aspect, et ça, c'est bien intéressant aussi, tu sais, on parle souvent d'économie. Pour contrer ça, il y a des concepts d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité. C'est un peu abstrait, mais c'est bien intéressant à lire. Comment maintenant, on se dit, mais on pourrait modifier, si par exemple, ceux qui fabriquent ces appareils-là, ces objets-là, demeuraient propriétaires de l'objet, plutôt que ce soit moi qui en sois le propriétaire, c'est la compagnie qui en est propriétaire.
Elle reste responsable de...
Eh oui, puis là, tu y payes un contrat, en quelque sorte, mais elle serait... Là, je te jure que l'appareil, il serait résistant parce qu'il serait, eux autres, imputables des réparations ou du remplacement.
Ouais.
Tu sais, ce type d'économie-là, bon, je sais qu'on parle de quelque chose d'un peu abstrait, mais moi, je pense qu'on va y arriver parce qu'il y a un épuisement, par exemple, des terres rares, il y a un épuisement des minéraux. Il va falloir qu'on trouve des solutions là pour conserver un type de consommation qui a du bon sens.
Mais tu sais que l'Observatoire pour l'économie responsable, ça, ce que je reproche un peu à ces organismes-là, c'est que des fois, ils nous mettent dans le citoyen ou le consommateur dans une situation impossible, mais eux, ils considèrent qu'au même prix, là, si tu fais le calcul, mettons, tu as un petit appareil électroménager de 200$ à l'achat, puis ça coûte 200$ à faire réparer, mais eux, ils disent faut pas hésiter à le faire réparer, là. Au nom de l'écologie, au nom de... Tu sais, ton réflexe de consommateur serait de dire, mais là, je vais en avoir un neuf pour le même prix. Mais non, c'est que ton vieux, c'est ton objet, c'est ton malaxeur. Tu le répares, là. Je veux dire, tu t'assures que tu vas pas rejeter celui-là dans la nature, puis en mettre un autre, en sortir un autre du magasin pour le remettre en circulation.
À quel moment tu changes de voiture? Tu changes de voiture quand vraiment elle a eu sa vie.
La différence, c'est qu'une voiture, tu ne la vas pas au dépotoir. Il y a un marché plus clair de l'usager.
Mais
tu
as tendance à acheter une neuve parce qu'elle est plus belle. Puis,
oui, mais il y a un marché pour le seconde main. Alors que dans beaucoup de petits appareils électroniques, électroménagers, le marché du seconde main est pas mal moins. Le marché du seconde main, c'est le dépotoir. Oui. Là.
Notre collègue Marc Brière m'envoie cette réflexion philosophique.
Oui.
Qui dit, t'as le choix dans la vie entre faire réparer l'appareil pour 250$ ou encore en avoir un neuf pour 65$ par mois.
C'est bon.
C'est une bonne réflexion.
Mais maintenant, on compte même plus par mois. C'est les 7 de passé, c'est par semaine.
Par semaine.
Par semaine.
Parfois, tu t'assises.
Oui, ça coûte moins cher par semaine.
Ça coûte rien par semaine, c'est pas cher.
Par jour, là, c'est ridicule. Alors, une coupe de tasse de café.
Voilà. La commission vous était présentée par Pierre-Yves McSween. 8h54. L'autoroute 20.